sommes entre Loire et Loin, nous sommes sur ces deux ailes, comme chaque samedi à 10h. Et nous sommes aussi en vidéo sur les réseaux, sur notre page Facebook. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et puis, c'est une émission spéciale aujourd'hui, parce qu'en fait, on est samedi là, à la radio. Mais en fait, elle a été enregistrée hier soir au hangar à Chalette, à l'occasion du spectacle Manger. Et donc, une émission spéciale quoi ? Devinez, une spéciale bouffe. On va parler bouffe avec Sandrine Manteau et tous ses invités. On est au hangar. Hey. Applaudissements.
Bonjour à tous, donc bienvenue au hangar pour cette seconde émission en public avec en effet plein d'invités qui vont me parler de quoi ? Qui vont me parler de manger, qu'est-ce qu'on mange, la gastronomie, la bonne bouffe, la malbouffe, il y en aura pour tout le monde. On a eu cette idée très simplement parce que ce soir au hangar, il y a le spectacle de la compagnie Zygomatique, un spectacle musical qui s'appelle Manger. Alors, manger, mais dis donc... Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Car au bout du compte, cette nourriture que nous choisissons, que nous refusons, que nous élisons, que nous achetons et finalement que nous ingérons, elle est notre miroir quotidien. Alors elle est notre miroir quotidien à nous, les Européens du 21e siècle qui, grosso modo, si tout va bien, n'avons pas trop le souci de savoir quand et si nous allons manger. Mais simplement... Mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qu'on va choisir, en fait, comme alimentation ? Et donc, cette nourriture, elle devient une illustration de nos choix, de nos convictions, de nos croyances et détermine notre personnalité. Moi, je suis végane. Moi, je ne mange pas de porc. Je mange halal. Je mange sans sel. Non, plutôt sans gluten. Voilà. Et en fait, elle devient une définition de notre personne sociale et de notre personne, évidemment, physique. Et puis, l'alimentation, c'est aussi le rapport à l'autre, le rapport aux autres. Le fait de s'alimenter, pourtant, à la base, est une action centripète entre moi et moi, une action vitale. Et pourtant, à travers le monde, s'alimenter, c'est une activité partagée entre congénères, quelles que soient les mœurs des communautés. C'est ce qu'on appelle la philosophie du repas, le partage. Et évidemment, ça nous ramène à quoi ? Ça nous ramène à la scène biblique. Cependant, l'aliment, c'est aussi le premier clivage social, économique, car nombreux sont ceux d'entre nous qui ne mangeront jamais de caviar de leur vie. Il y a ceux qui peuvent s'offrir du bon, qui peuvent s'offrir du bio, diront d'autres. Et puis, il y a ceux qui s'offrent, qui prennent, qui achètent les premiers prix. Enfin, une dernière chose, la nourriture, c'est celle qui induit l'éveil des sens. Ça aussi, c'est marrant. En fait, c'est le passage de quelque chose d'objectif à du subjectif, quelque chose de rationnel, l'aliment, à de l'irrationnel, le plaisir. Et Lévi-Strauss nous disait, un aliment ne doit pas être bon qu'à manger, mais aussi bon à penser. Alors voilà, la nourriture, c'est multifacette. C'est le culturel, c'est le social, c'est l'économique. Mais déjà au XVIIIe siècle, Brillat Savarin, dans sa physiologie du goût, allait encore plus loin. La gastronomie, disait-il, est liée à l'histoire naturelle, à la physique, à la chimie, à la cuisine, au commerce, à l'économie politique. Bref, la gastronomie, ça régit la vie entière. Et en ce moment, en attendant à Montargis, eh bien, voilà, ça régit la vie festive, puisqu'on en est au 34e rencontre gastronomique. Et il y a Emma de l'OTSI qui est là pour nous en parler. Bonjour Emma.
Bonjour.
Alors Emma, qu'est-ce que vous faites à l'OTSI ? Vous êtes ?
Moi, je suis la responsable de l'accueil et je m'occupe avec Monsieur Simon du mois de la gastronomie.
Ah oui, bonjour Patrice Simon, comment allez-vous ? Alors voilà, rapprochez-vous. Emma, combien y a-t-il de restaurateurs qui participent à cette grande fête de la gastronomie ?
Cette année, ils sont 11. Et ils peuvent aller jusqu'à 12. Mais cette année, ils sont 11.
Alors, ce n'est pas Montargis même, c'est le Montargois.
Tout à fait.
Alors, dites-nous, donnez-nous quelques exemples, ou alors il faut parler tous, en fait.
Oui, sinon, je peux vous,
alors,
tous
vous
citer. En fait, vous avez l'Entre-nous, l'Auberge des Templiers, le Biquin d'Or, le Coligny, le domaine de Vouguard, l'hôtel de l'Abbaye, l'hôtel de la Gloire, au terroir, l'orangerie, les petits oignons et le restaurant sur le lac.
Et alors, tous ces restaurateurs ont mitonné, concocté, imaginé un menu spécial, c'est ça ?
Tout à fait, tout compris, de l'apéritif jusqu'au café, avec aussi des vins compris, et avec tout ce qui est possible de faire avec des produits régionaux. Je peux vous donner quelques exemples, si vous voulez.
Alors, est-ce que vous avez pris un petit peu parmi,
tout à fait.
Dans les cartes ?
J'ai mélangé un petit peu.
Ce qui vous parlait le plus, ce qui vous faisait saliver, Emma, c'est
voilà, ça ? Voilà, tout à fait.
Alors, allez-y.
Alors, déjà, vous avez une assiette gourmande de la mer avec des crèmes aux tuiles au safran du Gâtinais. La canette fermière en croustillant jus au miel du Gâtinais et épices douces. Le croustillant de chèvre de la Petite Brosse. Et en dessert, bavarois aux fruits à la poire d'olivier, mais aussi une mousse au miel du Gâtinais.
Alors voilà, l'important dans tout ça, c'est que tous ces restaurateurs ont joué le jeu des produits locaux.
Tout à fait. C'est tout à fait ça, puisqu'on fait partie de l'opération Automne Gourmand et on a été labellisé cette année aussi Nouvelle Renaissance. Donc il faut jouer le jeu à fond.
Et puis, il y a un petit jeu, je crois, quand on va manger chez l'un de ces restaurateurs. Qu'est-ce qui se passe au terme du repas ?
Au terme du repas, chaque restaurateur vous remet donc un petit ticket qu'il faut remplir. Et donc, une fois que le mois est fini, donc après le 15 novembre, on fera un tirage au sort parmi tous les tickets. Et puis, on gagnera un repas pour deux personnes dans un des restaurants du mois de la gastronomie.
Voilà, ça donne envie, hein ? C'est formidable. Eh bien, merci beaucoup, Emma.
Je vous en prie.
Merci. Alors, évidemment, la chanson, c'est mon petit dada. Et je me disais, a-t-on beaucoup parlé de nourriture dans la chanson française ? Et j'ai mis au turbin mon complice, Monsieur Jo, Jocelyn Saviard, ici présent. Alors... Ben ça c'est Titoutou qui t'applaudit, Jocelyn, parce qu'il te connaît bien. Est-ce que ça a été facile, Jocelyn, de trouver toutes ces chansons ?
Au départ, non. J'avoue qu'au départ, j'étais un peu perplexe et je me demandais des chansons qui parlent de nourriture. Quoi ? J'ai pensé au petit pain au chocolat, Joe Dassin, et puis j'ai eu un grand blanc. Mais je ne me suis pas découragée, j'ai continué à chercher. Et puis finalement, j'en ai trouvé des dizaines et j'en ai trouvé une cinquantaine. Bon, plus que je pourrais en chanter ce soir. Et j'aurais pu en trouver une centaine, si j'avais voulu. Et je me suis dit, si ces chansons, on arrive à les trouver, ça veut dire qu'elles ont eu un peu de succès quand même, que les gens qui les ont faites ont réussi à les rendre attrayantes, ont réussi à les rendre sexy. Et comment fait-on pour rendre sexy des chansons sur un sujet qui est aussi prosaïque, terre à terre ? Et j'ai retourné un peu les chansons sous toutes les coutures. Et au bout d'un certain temps, j'ai trouvé un certain nombre de façons de rendre ces chansons un peu sexy. Et je vous en livre quelques-unes. Et il y a une première façon qui est évidente, parce que quand on a ce sujet-là, il n'est pas facile de toujours pondre des chefs-d'œuvre. La première façon, c'est d'assumer crânement l'ineptie des paroles. Et on a un exemple qui nous vient de Ray Ventura dans les années 30, je pense. Ça s'appelle « Vive les bananes ». J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Et il faut reconnaître que même le grand Boris Vian s'est un petit peu relâché sur ce coup-là quand il a fait une chanson pour Maurice Chevalier, qu'il a interprété, entre autres, Poire aux pommes de terre. Pam, 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 belle bérangère. Pam, 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 voici des poireaux. Pam, 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 et des pommes de terre. Pam, 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 dont je vous fais cadeau. Et on a, dans le même style, plus récent, on a ce grand tube des Charlons en 67.
Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiètes, notre amour ne serait pas si beau si tu n'aimais pas les paupiètes. Les paupiètes de veau.
Et il y a une deuxième façon que j'ai trouvée de rendre ces chansons un peu sexy et peu attrayantes, c'est, ben voyons, de les tirer un peu vers la grivoiserie, mine de rien. Et même une chanson qui a l'air aussi innocente que Les petits pois de Dranet, 1902, si je ne me trompe.
Lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, avec un petit air empressé, « Dis-moi comment ça s'est passé ?» Baissant les yeux timidement, elle répond à sa maman, « Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Oh. » Oh, ouais.
Et plus récent encore, on a Serge Gainsbourg, oui, bon. Mais, Serge Gainsbourg.
Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie, donne à ses baisers un goût anisé. Lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis.
Et ben voilà, hein? On arrête ici cette première partie d'émission. On se retrouve dans quelques minutes. Et puis, rendez-vous sur le net, rendez-vous, et puis à la radio, bien sûr. Deuxième partie d'émission, tout de suite, on parle de malbouffe et surtout de bonne bouffe à Entre-Loire et Loin.
C2L.
Y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des yaourts à la fraise, on les mange bien à l'aise. Des yaourts au chocolat, jusqu'ici ça va. Des yaourts à la groseille, on s'en met jusqu'aux oreilles. Et puis des yaourts aussi, au lait de brebis. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des yaourts à la pêche et d'autres noyaux de pêche. Y'a des yaourts aux brugnons, nefs les potirons. Des yaourts aux fruits sauvages, ceux qui vous mordent au passage. D'autres aux fruits du verger qui sont sans danger. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Des yaourts à la tulipe qui sont sûrement anti-grippe. Et des yaourts aux cailloux qui font mal aux genoux. Y a des yaourts à la sauge qui sont bons pour le pied gauche. D'autres à la tête de veau, c'est pour le cerveau. Y a des ya-ya, y a des yaourts, y a des yaourts à tout. Y a des ya-ya, y a des yaourts, y a des yaourts à tout. Des yaourts aux vers de terre qu'on mange avec un lance-pierre. À la bave d'escargot, c'est pour les costauds. Des yaourts aux crottes de bique qui éloignent les moustiques. Des yaourts aux pipi de chat contre le tabac. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts, y'a des yaourts à tout. Y'a des ya-ya, y'a des yaourts. Y'a des yaourts à tout. Et même en cherchant bien, on trouve des yaourts à rien.
C'est tout mignon, hein? moi. Moi, j'adore ce jingle. Hein. Merci, Monsieur Weber. Alors, deuxième partie de notre émission en public, ici au hangar. Et notre thème est toujours la nourriture, manger, la bonne bouffe, la malbouffe. Mais là, on parle évidemment de bonne nourriture, puisque je vais accueillir à mes côtés Didier Vauglevette. Didier Vauglevette pour le lycée hôtelier Saint-Louis à Montargis. Bonjour Didier.
Bonjour à tous.
Monsieur le responsable de la section hôtellerie.
Exactement.
C'est ça. Alors dites-moi Didier, c'était incontournable de vous inviter pour parler de cette institution qui est le lycée hôtelier Saint-Louis. Dernièrement, les élèves de Saint-Louis, enfin libérés de toutes ces contingences sanitaires, se sont rendus à Montargis, sur le marché de Montargis, pour proposer une animation. Didier, racontez-moi, qu'est-ce que c'était ?
Donc l'animation a été réalisée par des élèves de BTS deuxième année. Nous les avons fait travailler sur comment organiser une prestation en extérieur, préparer le matériel, préparer au préalable les recettes. Et ensuite, nous avons proposé gracieusement aux gens qui circulaient sur le marché de Montargis différents plats réalisés par les élèves devant les personnes.
Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que Saint-Louis, parce que moi, j'y ai jamais mis les pieds.
Alors, Saint-Louis, c'est, on pourrait dire, une vieille institution. L'école en elle-même a plus de 100 ans. Par contre, la section hôtelière a ouvert il y a 40 ans. Donc, nous fêtons cette année les 40 ans de la section hôtelière. Donc, en 40 ans, elle a vu passer de nombreux élèves.
Combien d'élèves dans cette section hôtelière ?
Alors, aujourd'hui, nous approchons de la centaine d'élèves.
Est-ce qu'il y a l'équivalent dans toutes les régions ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est assez unique, Saint-Louis ?
Disons que Saint-Louis est unique par son site, situé dans le château de Montargis. Par contre, on n'a rien d'unique dans la formation, si je peux dire, parce que c'est très, très développé partout en France.
Enfin, quand même, lors de mes nombreux reportages, parce que je suis une vieille dame de ce côté-là, j'ai souvent entendu les cuisiniers ici et là dire « je sors du lycée hôtelier Saint-Louis », n'est-ce pas ?
C'est tout à fait vrai, voilà. Mais on reste quand même assez humble et discret malgré tout.
Bon, dites-moi, est-ce que l'enseignement, évidemment, de toute façon, l'enseignement en 40 ans à Saint-Louis, au niveau section hôtelière, évidemment, a obligatoirement évolué ?
Énormément évolué, pas forcément toujours dans le bon sens, mais il a évolué. Disons qu'aujourd'hui, on a des formations de plus en plus intellectualisées et peut-être de moins en moins pratiques. Voilà. Par rapport au début où je suis arrivé dans l'enseignement, je dirais que l'enseignement pratique s'est divisé presque par deux pour certaines classes.
Est-ce que le lycée Saint-Louis suit l'air du temps en ce qui concerne la gastronomie, l'apprentissage de la cuisine ?
Alors nous suivons l'air du temps en respectant cependant des référentiels qui sont dictés par l'éducation nationale, donc on est un peu obligé de les respecter, mais on essaye dans toutes ces nouvelles tendances de développer tout ce qui est environnement durable et travailler le plus sereinement possible en évitant tout ce qui est gaspillage.
Ah, très bien. Est-ce qu'il y a du jardinage ? Est-ce qu'on cuisine des légumes ou du moins les aromates qui sont plantés, je ne sais pas
dans... Oui, alors depuis cette année, nous avons planté différents aromates qui commencent à pousser gentiment et que l'on va pouvoir intégrer dans nos cuisines prochainement. De la ciboulette, de la nette, de la menthe, enfin, des tas de petites choses comme ceci.
Parlez-moi du restaurant d'application.
Alors, nous avons un restaurant d'application. Comme diraient certains, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire qu'on peut venir déjeuner pour un tarif très, très intéressant. Voilà. Nous avons une chance par rapport à la situation. C'est que nous ne payons pas notre personnel. Donc, ce qui explique pourquoi nos tarifs sont bien en dessous de ce qu'il peut être dispensé dans les autres établissements hôtelier de Montargis.
Et dans ce restaurant d'application, on y mange quoi ? On y mange des menus qui sont élaborés par les professeurs en collaboration avec les élèves ?
Alors, ça dépend des formations. Il y a certains jours où le menu est imposé par l'enseignant parce qu'on doit respecter des programmes comme un cours de maths, un cours d'anglais. Et il y a d'autres jours où on laisse les élèves développer une certaine créativité, une certaine liberté. en respectant cependant des consignes précises.
Bon, et quels sont les autres projets durant l'année pour faire connaître ce lycée hôtelier Saint-Louis ?
Alors, les autres projets pour faire connaître, c'est déjà accueillir de nouveau des clients pour pouvoir travailler plus sereinement, s'ouvrir sur différents projets. On a un projet qui semble se présenter en partenariat avec l'UMI 45, c'est la création d'un plat signature. Mais le texte n'est pas encore clairement défini, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus.
Mais alors, en fait, Didier, vous venez de me dire que le restaurant d'application n'est pas encore ouvert au public ?
Si, tout à fait, au public, ça y est. Voilà.
Il y a combien de places dans ce restaurant ?
Il y a une quarantaine de places et les menus apparaissent sur le site internet de l'école.
Il faut réserver à l'avance ?
Voilà, tout à fait. C'est uniquement sur réservation.
Est-ce que vous trouvez qu'on a fait le tour du problème qui n'en est pas un ?
On pourrait en parler plus longuement, mais il faut laisser la place aussi à d'autres personnes.
Ça fait combien de temps que vous travaillez là-bas, Didier ?
Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne sur le lycée Saint-Louis.
Et vous enseignez quoi, très exactement ?
Alors, je suis au départ cuisinier de formation et je suis aujourd'hui professeur de restaurant et de réception étage. Donc, je forme les managers de demain sur la partie restaurant et sur la partie hôtel.
Ben, c'est super.
Moi, j'ai une petite question, Madame Manteau. Est-ce que vous avez vu sur les bancs de votre école quelques cuisiniers célèbres que tout le monde connaît maintenant ?
Alors, quelques cuisiniers célèbres, tout dépend jusqu'où on peut étendre la célébrité de ces cuisiniers.
Parce qu'après, c'est pas mal de pouvoir dire, oui, alors là, le mec que vous voyez à la télé, là, qui donne des cours, c'est moi qui lui ai tout appris.
Eh bien, nous en avons un que l'on voit tous les jours à la télé. Enfin, on ne le voit pas, on entend ses recettes, on le voit développer ses recettes en quelques minutes avec 5 ingrédients. C'est M. Mallet, le chef Mallet, qui réalise l'émission Simplissime.
Oui, qui devait être là ce soir, mais qui ne sera dans une prochaine émission.
Ah, je savais bien que M. Weber, en prenant le micro, il avait une idée derrière la tête. C'est incroyable. Bon, Didier, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Puisqu'on parle de jeunesse, juste après vous, vous allez pouvoir donner le micro à un jeune homme qui n'est pas dans votre établissement, mais qui est lycéen. Au lycée en forêt, c'est Léo Salomez qui va nous parler, lui, de Malbouffe. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci, merci.
Alors, bonjour Léo.
Bonjour.
Il semblerait qu'on se rencontre aujourd'hui, mais que tu as peut-être l'intention de revenir de temps en temps prendre le micro ici même.
Bah oui, parce que figurez-vous, moi, mon objectif, c'est d'être journaliste plus tard. Donc, je me suis fixé cet objectif-là et je compte le tenir. Voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, l'information. Mais bon, nous allons parler d'un sujet bien particulier qui nous réunit tous, hein, puisque c'est la malbouffe. Donc, moi, je tenais à parler plutôt avec mon aspect de jeune de tout ça. C'est-à-dire que derrière cette malbouffe, en fait, il y a un mal-être. Et il y a des chiffres qui sont très révélateurs que je vais citer, qui ne sont pas très joyeux pour le coup. Là, on a parlé de plutôt l'aspect très bon de la culture, on va dire, gastronomique. Mais là, il y a des zones d'ombre au tableau. Donc voilà, notamment avec le confinement, les baisses de morale, l'inquiétude de la jeunesse sur le fait de savoir où on va. Voilà, on est un peu perdu en ce moment. Voilà, je tenais à dire que voilà, il y a beaucoup d'incohérences et qu'on s'y retrouve plus vraiment beaucoup. Voilà. Donc déjà, la malbouffe, c'est le signe finalement que la société en fait est riche puisqu'on a le choix. Mais dans les pays pauvres, il y a moins de malbouffe, il y a surtout moins d'obésité. Voilà. Donc l'inégalité des répartitions des richesses alimentaires est telle que, je vais rappeler avec tous les chiffres qui vont suivre que la situation est très préoccupante. Et donc, notamment en 2015, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a fixé à 41%, donc le pourcentage des moins de 18 ans qui vont de 1 à 3 fois dans un fast-food par mois. Donc ça veut dire quand même que 4 personnes sur 10, rendez-vous compte, vont dans un fast-food au moins 3 fois par mois.
Ils ont des beaux budgets quand même, ces jeunes.
Eh bien oui, justement, c'est ça. C'est que la nourriture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, eh ben, parfois, quand elle est mauvaise, elle prend aussi beaucoup de budget sur notre porte-monnaie, notre portefeuille, nous les jeunes. Donc voilà, l'OMS a aussi fixé à 2,5 kilos la prise de poids des 5-11 ans, donc c'est quand même aussi préoccupant. Ça veut dire qu'il y a une clientèle qui est jeune, ça veut dire qu'elle est très préoccupée par tout ça aussi, par
Trop de cornflakes. Je dis toujours à mes enfants, trop de cornflakes.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, 4% d'adolescents sont atteints d'obésité en France aujourd'hui. Le surpoids a augmenté de 10% chez les 5-11 ans. On remarque que c'est les 5-11 ans hein, qui sont les plus touchés, bien qu'il y ait beaucoup de tranches d'âge. Donc, ces chiffres sont très révélateurs. Donc, le confinement a fait que nous étions beaucoup plus contraints à rester chez nous. Donc, les jeux vidéo, la déprime, l'isolement, l'abandon, un peu. La jeunesse s'est sentie abandonnée.
Calmos, hein, s'il te plaît. On a fait ce qu'on a pu, hein, nous, les adultes.
Hein. Ah, mais ça c'est l'abandon. Je pense pas que ce soit vous. Je pense surtout que c'est les gens qui sont encore plus haut. Vous, je pense que vous avez un bon état d'esprit. Après, c'est surtout qu'il y a des ficelles qui sont tirées plus haut qu'on ne le pense. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce confinement a été inhumain. Et je connais des gens qui ont voulu mettre fin à leur jour, qui avaient 11 ans. Donc, c'est peut-être pas joyeux, mais c'est la vérité. Donc, on aurait peut-être dû leur dire d'aller manger dans des restaurants gastronomiques, mais ils étaient fermés seulement. Donc, la nourriture apporte beaucoup à notre esprit, je pense. Et je pense qu'on devrait absolument s'en préoccuper.
Tu veux dire que la nourriture, c'est l'imaginaire ?
Bah oui, la nourriture, finalement, c'est un peu la mélodie des sens, on va dire intérieur. C'est, on va dire que moi-même, étant musicien, j'ai envie de dire, quand ça pourrait donner des idées de composition, peut-être. Sait-on jamais. Donc après, je pense que c'est une certaine liberté de pouvoir concocter ses plats, de pouvoir faire sa petite tambouille. Et on a peut-être oublié durant le confinement que la liberté, ça fait partie... Il y a beaucoup de droits qui émanent de cette liberté. Et on a le droit de manger de la bonne nourriture. Donc pendant le confinement, on n'avait pas... Du coup, on avait moins de droits pour se nourrir sainement.
Donc, ça nous a permis aussi, tu sais, souvent, d'aller chez les petits producteurs. Tu te souviens de ça ?
Oui, oui,
chez
oui,
les petits commerçants. Il y a beaucoup de gens qui, soudain, se sont retrouvés avec du lait de ferme. Je ne savais même pas quel goût ça avait avant.
Mais là, ça représente peut-être qu'une facette.
Oui,
puisque
on parle de ruraux.
On était dans un engrenage vraiment énorme. Par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure de ce pauvre enfant de 11-12 ans qui voulait en finir, lui, il vivait sur Paris, donc 75, donc vraiment dans la région parisienne. Et c'est compliqué quand on habite dans un petit appartement. Donc voilà. Donc les restaurants étaient fermés, mais les magasins étaient ouverts. Enfin, on ne comprenait plus trop. On ne savait plus où donner de la tête. Donc maintenant, je me suis beaucoup plaint quand même, mais il y a des revendications derrière, c'est-à-dire que on nous dit oui, il vous faudrait une bonne guerre, vous les jeunes, vous connaissez pas ce que c'est de souffrir, vous savez pas ce que c'est non
qui
plus.
Ah oui.
Il y en a encore, hein. Avant d'autres générations. Bon, je veux dire, c'est pas la mienne, mais c'est vraiment pour être plus sérieux, je pense que on parlera plus de guerre comme on en a vécu, mais plutôt de guerre gastronomique au niveau de la nourriture, au niveau des denrées. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de dire, les ressources, elles commencent à devenir rares, et c'est préoccupant de se rendre compte à quel point c'est important de regarder les choses en face et de se dire, oui, je veux bien manger, je veux pas mourir d'un cancer à 65 ans, enfin voilà, j'ai envie de dire... Cette jeunesse-là, elle est vraiment exposée à tout ce... Enfin, cette jeunesse dont je fais partie. Mais on est vraiment collé à l'information. Donc, tout ce qui est cancer, tout ce qui est épidémie, on s'est pris tout ça de plein fouet. Et donc, d'où l'importance de bien se nourrir et d'aller chercher local aussi.
Moi, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus,
oui,
Léo.
Tout à fait. Je tenais juste à finir avec une petite citation de Platon, tout simplement.
Ah, alors moi, je veux bien.
Voilà.
Moi, je veux bien.
Qui nous dit la rhétorique correspond pour l'âme ce qu'est la cuisine pour le corps. Donc voilà, donc on s'est lié finalement avec
c'est
tout
beau.
Ça.
Ce jeune homme a un esprit sain dans un corps sain, car je sais que son papa, Gilles Salomès, cultive son jardin. Mais le vrai en plus, hein. Pendant longtemps il a cultivé
intérieur,
son jardin intérieur. Et voilà, et maintenant, son jardin extérieur. Et puis alors, sa femme en a ras-le-bol de faire les conserves. Elle lui dit, Gilou, calme-toi sur le jardin. Voilà. Merci
beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.
Merci, bravo Léo.
Merci.
rumba des vers, un foxtrot découvert, des bruits de vers endiablés volent dans la salle à manger.
Des bruits de vers endiablés.
Sous la pluie, des débris, des mots petits, rabougris font l'étalage de leur peine et se ramassent dans l'arène.
Font l'étalage de leur peine et se ramassent dans l'arène.
Ça s'exprime, ça se traîne, ça hausse le ton à la Carmen. Ferme les yeux, mon amour, la tête collée dans. Tes mains sur mes hanches, gratte-moi là où ça dérange. Demain tout ça passera, nous nous prendrons dans les bras.
Demain tout ça passera, nous nous prendrons dans les bras.
Mais pour l'heure ça déménage, on sent les assiettes de leur cage. Ça valse dans le living room, ça tombe dans un grand bout. Sera les miettes lorsque mourra la tempête. On a l'air toujours plus bête, les mains sur la balayette. Puisque tout part en sucette, que nos cœurs sonnent leur trompette et que la danse de nos corps ne se fait plus que dans l'effort, que nos voix résonnent encore, cognant dans le corridor, qu'elles fragilisent les fondations. Griffée du salon. Lâchant tes étincelles, je baisserai mes décibels et ramassons à la cuillère les fausses notes de nos concerts. Prends ma main et contemplons l'état du sol au plafond et les dessins imaginaires qui forgent nos âmes rancunières. Alors nous pourrons ranger un à un les vers à pied et remettre dans leur fourreau les lames de nos grands couteaux. Et remettre dans leur fourreau les lames de nos grands couteaux. Sur la pointe de nos pieds, le silence retrouvé, nous rangerons la vaisselle, la tête au creux de ton aisselle. Nous rangerons la vaisselle, la tête au creux de ton aisselle.
Salut, c'est Patrice. Je vous donne rendez-vous chaque lundi et jeudi soir dès 23h pour une heure de musique pas comme les autres. Indus, cold gothic, shoegaze, dream pop, dark néo-folk, 60 minutes pour découvrir une autre musique, qu'on se le dise. Bonjour chez vous.
Bonjour, je suis Jean-Paul, naturopathe dans votre région. Je vous propose du lundi au samedi ma chronique Le Conseil Santé sur Radio C2L pour vous donner toutes les clés de votre bien-être au quotidien.
Le repas. Il n'y a que la mère et les deux fils. Tout est ensoleillé. La table est ronde. Derrière la chaise où s'assied la mère, il y a la fenêtre d'où l'on voit la mer briller sous le soleil. Les capes au feuillage sombre des pins et des oliviers. Et plus près, les villas aux toits rouges où fument les cheminées, car c'est l'heure du repas. Tout est ensoleillé. Et sur la nappe glacée, la bonne affairée dépose un plat fumant. Le repas n'est pas une action vile, et tous les hommes devraient avoir du pain. La mère et les deux fils mangent et parlent. et des chants de gaieté accompagnent le repas. Les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes et le son clair du cristal des verres. Par la fenêtre ouverte viennent les chants des oiseaux dans les citronniers. Et de la cuisine arrive la chanson vive du beurre sur le feu. Un rayon traverse un verre presque plein de vin mélangé d'eau. Oh, le beau rubis que font du vin rouge et du soleil. Quand la faim est calmée, les fruits gais et parfumés terminent le repas. Tous se lèvent, joyeux, et adorent la vie. Sans dégoût de ce qui est matériel, songeant que les repas sont beaux, sont sacrés, qui font vivre les hommes. Guillaume Apollinaire.
Merci, merci beaucoup Aurélie Plot. Alors Aurélie a accepté d'interpréter en effet cette très belle, ce très beau poème de Guillaume Apollinaire, Le Repas. Dedans, qu'est-ce qu'on entend ? On entend que le repas n'est pas vil, on entend que tout le monde devrait avoir du pain. Et on entend enfin que les repas devraient être partagés dans la joie et dans les chants.
Et dans la parole.
Et non pas, sur les téléphones portables. Ça, c'est maman qui parle.
Ça nous fait une transition avec la jeunesse de Léo. En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir envoyé ce texte. Il y a quoi ? 36 heures Non, à peine 30 heures. Voilà. Merci, parce que je ne connaissais pas ce poème d'Apollinaire et je le trouve absolument magnifique.
Donc, alors Aurélie, aujourd'hui tu es là, mais la prochaine fois qu'on enregistrera l'émission, tu ne saurais être là car tu seras là-bas sur le plateau ou du moins en coulisses, prête pour ton spectacle Quartet d'Heiner Müller. Et ça sera le 18 novembre.
Le 18 et 19 novembre à 20h30. La Merteuil, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont vous attendent en enfer.
Et nous, on sera là le 19, c'est ça ? Et ouais, Monsieur Weber, je me disais que ce jour-là, on pourrait prendre comme thème paradis et enfer. C'est pas mal, ça te plaît ?
C'est ça, avec du pole dance et tout ça, monsieur. Je sais que j'insiste beaucoup sur le pole dance. Mais...
Le pole dance, ce sera en fin d'année, avec mes adultes confirmés au théâtre.
Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci, Sandrine. Merci, Pascal.
Alors, on va rester absolument pour cette troisième partie d'émission entre Loire et Loin, ici au Hangar, sur le thème de la nourriture. On va rester dans la littérature. Cette fois-ci, j'appelle Éric Poutet. Éric Poutet, il est professeur de littérature au lycée en forêt. Il est également chroniqueur cinéma au Cinéma Vox. Voilà, Éric Poutet, c'est à toi. Toi, t'as droit à un super jingle, les autres que dalle. Mais toi, t'as droit à un super jingle. On va enlever le truc à tête de mort, là. Ça me fait peur, ces trucs-là. Rien que le nom, c'est affreux. Ça fait très peur. C'est très beau, mais ça fait très peur. Alors voilà, Éric, je te remercie d'être là. Je t'ai demandé de plancher, tu as l'habitude de plancher, tu fais que ça ?
Beaucoup, oui.
Et tu as trouvé un petit peu de temps pour nous parler de la nourriture en littérature. Est-elle présente ou ne l'est-elle
Alors,
pas ?
C'est un vaste sujet, je n'ai pas fait le tour, je ne ferai pas le tour en quelques minutes. Donc quand tu m'as parlé de parler de bouffe, de bonne chère ce soir, il y a beaucoup de passages de textes qui me sont venus à l'esprit. Et très rapidement, il y a aussi des scènes de cinéma qui se sont superposées, et notamment dans Le sens de la vie des Monty Python, cette scène du restaurant où un personnage absolument énorme vient, commence par vomir sur tout le monde, sur la femme de ménage, et il se remplit sans cesse jusqu'à exploser dans une gerbe de vomi, sans jeu de mots. Et finalement...
Non, tu voulais intervenir ? La malbouffe,
c'est au-delà, oui. C'est au-delà de l'outre-mangeur aussi... toujours au cinéma ou en bande dessinée. Et finalement, cette figure, cette scène, a écrasé un petit peu tous les passages rabelaisiens, les festins gargantuesques, pantagruéliques qui m'était venu en tête, la rôtisserie des poètes de Cyrano, dont tu parleras sans doute juste après. Bien sûr. Et je me suis posé la question, mais finalement, où est-ce que la nourriture n'est pas présente en littérature ? Et la réponse est venue assez vite dans la tragédie classique. Le corps est absent.
On est pur esprit dans la tragédie classique.
C'est un pur esprit, les corps sont totalement effacés. Il y a cette règle de vraisemblance, donc on ne montre rien sur scène qui puisse choquer le spectateur. Alors pas de violence, pas de duel, pas de mort, on a le bon goût de mourir en dehors de la scène. Alors parfois c'est encore plus violent, je pense à Phèdre que j'étudie avec mes secondes en ce moment, Théramène qui raconte la mort d'Hippolyte, eh bien c'est beaucoup plus choquant que tout ce qu'on pourrait représenter sur scène. Et la nourriture, on ne mange pas sur scène dans le théâtre classique. Les personnages sont de purs esprits, comme tu disais effectivement, et par exemple, pour rester dans Phèdre, on n'a qu'une seule didascalie dans la pièce. Elle s'assied, première apparition, Phèdre se laisse mourir. Je ne sais pas si c'est la pièce, vous l'avez en tête, mais se laisse mourir. Au tout début, donc, elle est amoureuse de son beau-fils Hippolyte, c'est un amour interdit qui vient de malédiction divine, et elle se laisse mourir, et donc elle paraît sur scène, elle ne le tient plus sur ses jambes, et la didascalie, c'est elle s'assied. Et donc là, la bienséance est mise à mal, puisque c'est rappeler, dire que Phèdre s'assoit, c'est rappeler qu'elle a un cul, en fait. Et donc... Et donc, on transgresse quasiment la règle de bienséance, mais en fait, c'est permis parce qu'elle est dans tel état de faiblesse qu'on autorise cet écart à Racine et à Phèdre. Alors, pour rester dans la tragédie, pour remonter un petit peu, il y a tragédie antique également. Et dans la tragédie, la nourriture est parfois à l'origine de malédictions. Par exemple, il y a une famille maudite dans la littérature, dans la tragédie, ce sont les Atrides. Les Atrides sont les descendants d'Atrée. On compte, par exemple, Agamemnon, Oreste, Électre, des personnages qui reviennent beaucoup dans la tragédie. Et donc, quelle est l'histoire d'Atrée ? Eh bien, Atrée avait un frère comme on en rêve tous, c'est-à-dire que son frère convoitait son trône. Alors, Atrée, roi de Mycène, c'est important de le dire. Et donc, son frère, Thieste, convoitait son trône et convoitait sa femme. Et donc, il a séduit la femme d'Atrée. Il a eu quelques enfants avec elle. Et puis... en la manipulant, en faisant voler, je ne vais pas entrer trop dans les détails, pardon.
Tu veux dire qu'il a manipulé la femme ?
La femme, oui.
Mais manipulant physiquement ou en la manipulant
À tous les niveaux.
Ah bon, d'accord.
Mentalement, physiquement. Pour qu'elle vole la toison d'or, et donc il a volé le trône de son frère. Ses excès ont déplu au peuple, et Thieste a finalement été chassé du trône de Mycène, et Atrée a voulu se venger. Et donc Sénèque raconte ça dans sa pièce qui s'appelle Thieste. Atrée a invité son frère à un somptueux repas, et en fait, sa vengeance, c'était qu'il a cuisiné les enfants de son frère, donc les enfants illégitimes que son frère a eu avec sa femme. Il lui a servi en viande succulente. Il a mêlé leur sang au vin qu'Atrée a bu, et c'est le point de départ de toute la malédiction des Atrides. Évidemment, Thieste a demandé la vengeance des dieux, et par l'ampleur et l'horreur de sa vengeance, Atrée a fait preuve de démesure, l'hubris de la tragédie, et a fait maudire sa lignée.
Il y a de quoi quand même. Bon, alors, et quoi d'autre ?
Alors, la nourriture, bien plus tard, va revenir. Là, je fais un saut dans le temps, un bond assez conséquent, au 19e siècle.
Oui, ça, on peut dire que c'est conséquent.
C'est conséquent, effectivement. les auteurs réalistes et naturalistes, ensuite, vont se saisir de ce thème, vont réintroduire la nourriture au premier plan dans leurs œuvres. On imite le réel tel qu'il est, dans tout ce qu'il peut avoir de plus beau, mais aussi de plus horrible. On pense naturellement à la citation de Stendhal, « Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt, il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange et le bourbier de la route. » Donc Stendhal, dans « Le rouge et noir », ça revient à plusieurs moments. Alors, dans l'Assommoir de Zola, on fait la fête au chapitre 7. Donc, Gervaise, dans sa blanchisserie, a invité tout le monde. Et on mange de l'oie. C'est le passage, je vais vous lire un petit passage. C'est un petit peu long, je m'excuse par avance. Je vais essayer, mais c'est difficile. On ne peut pas
raccourcir la littérature. Non, la littérature, c'est la littérature.
J'ai fait des coupes en plus.
On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça.
Non, il y a des choses, on ne peut pas. C'est un crime. Alors, ce fameux passage... Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette, c'est-à-dire que personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Les Lorilleux passaient leur rage sur le rôti. Ils en prenaient pour 3 jours. Ils auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la bambante du coup. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse. La carcasse, c'est le morceau des dames. Mesdames Lerat, Madame Bosch, Madame Putois grattaient des os, tandis que Maman Coupeau, qui adorait le cou, en arrachait la viande avec ses 2 dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau. quand elle était rissolée, et chaque convive lui passait sa peau par galanterie, si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères, en lui ordonnant de s'arrêter. Parce qu'elle en avait déjà assez comme ça. Une fois, déjà, elle avait trop mangé de rôti. Elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne le décrottait pas, elle n'était pas une femme. Lui en aurait bouffé toute la nuit sans être incommodé. Et pour crâner, il s'enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres, en se tordant de rire sur sa chaise, à cause de Boche, qui lui disait tout bas des indécences. Ah nom de Dieu, on s'en flanqua une bosse.
Ça, ça plaît en face, parce qu'on a des... On a des pros de la gastronomie. Hein. Alors, est-ce que vous aimez le croupion, vous aussi? Hein, vous aimez ça, hein? Moi, je me jette dessus, toujours obligée. Les ailes et la peau. On a envie de manger énormément de peau, mais c'est vrai que c'est très indigeste. Erreur. Vous me direz tout à l'heure, monsieur Jean-Jacques, pourquoi vous dites erreur. Voilà. C'est Jean-Jacques Liot, vous verrez, c'est super.
Alors, dans ces romans, le repas révèle les caractères, relève la rapacité des convives. Cette débauche de nourriture éveille les jalousies aussi. C'est aussi une démonstration d'orgueil de la part de Gervaise. Après ce repas, eh bien, tout va virer à la catastrophe. Un petit peu comme dans une tragédie aussi, on retrouve ces thèmes. Sans rentrer en détail là encore, mais le mari de Gervaise va sympathiser avec Lantier, l'ancien amant, le père des enfants de Gervaise. Ouais. Et la déchéance est au bout du chemin, ouais, ou au bout de la fourchette. J'ai pas pu empêcher également de piocher chez Flaubert, dans Madame Bovary, la célèbre description de la pièce montée, qui reflète, donc on parle de bovarisme, c'est l'imagination enflammée par trop de lectures qui coupe du réel, donc c'est plus court, là je vous rassure.
C'était formidable, hein, par ailleurs.
Merci. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot, et il apporta lui-même, au dessert, une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, c'était d'abord un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc, tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait un second étage de donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte, où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bâtons en écailles de noisettes, on voyait un petit amour se balançant une escarpolette de chocolat, dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturels, en guise de boule, au sommet. Donc, tu veux intervenir?
Ah oui, je veux intervenir, parce que je vois Gérard et... là, en face. Alors, Gérard Hay, vous verrez, c'est notre maître pâtissier, il interviendra tout à l'heure, et il se dit, mais bon sang, je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas, il faut vite que je rentre dans mon laboratoire et que j'essaie cette pièce montée. C'est ça, Gérard, que vous pensez?
Et donc, dans cette pièce montée, désolé Gérard, me retrouve toute l'imagination enfiévrée de Madame Bovary, mais également un certain mauvais goût de la petite bourgeoisie de province qui apparaît, qui transparaît dans Madame Bovary. Alors, je vais revenir à Zola, alors c'est pas bien, je suis passé de Zola, je suis remonté dans le temps encore pour passer à Flaubert, je retourne à Zola, donc un passage du ventre de Paris, où là encore, la nourriture, les fromages, pour le coup, on va parler de symphonie de fromage, est présent. Ce passage fait suite à deux personnages qui discutent, deux commères dans les halles qui se répandent en calomnie, en indignité sur un autre personnage. Elle restait debout, se saluant dans le bouquet final des fromages. Tous, à cette heure, donnaient à la fois. C'était une cacophonie de souffles infects, depuis les lourdeurs molles des pâtes cuites, du gruyère et du hollande, jusqu'aux pointes alcalines de l'olivet. Il y avait des ronflements sourds du cantal, du chester, des fromages de chèvre, pareil à un champ large de basses, sur lesquels se détachaient, en notes piquées, les petits fumées brusques des Neuchâtel, des Troyes et des Monts d'Or. Puis les odeurs s'effaraient, roulaient les unes sur les autres, s'épaississaient, des bouffées du Port-Salut, du Limbourg, du Jérôme, du Marolles, du Livaro, du Pont-l'Évêque, peu à peu confondues, épanouies, en une seule explosion de puanteur. Cela s'épandait, se soutenait au milieu du vibrement général, n'ayant plus de parfum distinct, d'un vertige continu, de nausée, d'une force terrible d'asphyxie. Cependant, il semblait que c'était les paroles mauvaises de Madame Lecoeur et de Mlle Sagé qui puaient si fort. Donc, la métaphore est explicitée à la fin, les calomnies, les paroles indignes, pue autant que les fromages.
C'est pas gentil pour le fromage, quand même. Hein.
C'est vrai. Et alors, pour terminer, avant de parler de bonne bouffe, je ne pouvais pas m'empêcher aussi de parler de l'autre extrémité du tube digestif, en citant un passage de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, donc paru en 1932. Alors, dans ce passage, qui n'est pas un des plus célèbres, qui mérite d'être lu quand même, Bardamu, le personnage principal, est à New York, à Brooklyn. Il voit une sorte de bouche de métro où il voit des hommes descendre. Il descend lui-même et ce sont des toilettes publiques. Et voilà le récit qu'il en fait.
Excusez-le, il n'a pas pu s'empêcher. Mais il n'a pas tort, quelque part. Le dernier des plaisirs, c'est ça.
C'était dans ce souterrain qu'ils allaient faire leurs besoins. En marbre aussi, la salle où se passaient les choses. Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau. Une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes déboutonnés, au milieu de leurs odeurs et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires, devant tout le monde, avec des bruits barbares. Les nouveaux arrivants devaient répondre à 1000 plaisanteries dégueulasses pendant qu'ils descendaient les gradins de la rue. Mais ils paraissaient tous enchantés quand même. Autant là-haut sur le trottoir, ils se tenaient bien, les hommes, et strictement, tristement même, autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Beaucoup en geignaient fort, comme les blessés, les parturiantes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Tout ce débraillage intime, cette formidable familiarité intestinale, et dans la rue, cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi. Bon, c'est un texte que je ne lis pas devant les élèves, j'en profite ce soir.
C'est formidable. On l'applaudit très fort, bravo.
Merci.
Bravo. Alors, en t'écoutant, Éric Coutet, je me disais quand même, justement, vous, les cuisiniers qui êtes là, que je vais inviter bientôt à cette table, face à moi, vous qui faites des choses aussi bonnes, aussi élaborées, aussi raffinées, aussi sophistiquées, est-ce que vous n'êtes pas au désespoir de voir la transformation qu'en fait notre corps au bout du compte ? Il faut bien faire avec. Alors, je voulais simplement, cher Éric, ajouter à ce que tu viens de dire au niveau littéraire, que parmi les écrivains cuisiniers, messieurs, il y avait Alexandre Dumas. Alexandre Dumas a écrit en...
Dumas père ou Dumas fils ?
C'est 1872, tu peux me dire ?
Ça doit être le fils.
Ben voilà, c'est le fils. Il a écrit le Grand Dictionnaire de Cuisine, qui est, paraît-il, toujours une bible pour les cuisiniers. Et donc, Didier, vous me dites oui. Ensuite, il y a, voilà, tu me parlais tout à l'heure d'Edmond Rostand. Edmond Rostand, dans Cyrano, développe une recette, la recette de la tartelette à quoi ?
Amandine.
La tartelette aux amandes, oui, l'amandine. Et d'ailleurs, paraît-il que chez certains pâtissiers, on appelle ça la tartelette Cyrano, justement. Enfin, autre chose... Marguerite Duras, la grande et sérieuse Marguerite Duras, eh bien, elle est aussi connue pour sa soupe aux poireaux. Et vous tapez Duras poireaux et vous avez alors là 10 occurrences qui vous parlent de la soupe de poireaux dite et expliquée par Marguerite Duras. Et dernière chose, ma chouchoute que tu n'aimes pas du tout, Éric, c'est Colette. Colette, passionnée de cuisine, Colette aux écrits sensuels, qui nous a écrit, retranscrit plus de 80 recettes de son époque et sans doute quelques-unes de ses trouvailles à elle-même en tant que cuisinière. Voilà, dernière chose, quand j'étais petite, j'étais pas grande, ça c'est bien vrai, et j'étais bercée par les recettes médiévales de Jeanne Bourrin, si ça vous dit quelque chose, les garçons. Non, ils disent non. Bon, voilà, c'en est fini pour la littérature. Encore merci Éric Poutet. On pourrait faire un petit passage un petit peu plus long, cher Pascal Weber, en laissant la parole à notre ami Jocelyn. Ça serait possible ? On finit en musique, cette troisième partie d'Entre Loire et Loin. Vous l'avez compris, on parle de bouffe. Enfin, vous l'avez compris, vu ce qu'il vient de nous lire au dernier moment. Oui, ça fait aussi partie de ça, c'est normal. Voilà, merci Éric.
Merci.
La confiture, ça dégouline, ça coule, coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain ? Bien sûr, on peut avec du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés.
Eh bien, il y a une façon aussi de rendre ces chansons intéressantes, c'est user d'humour. Alors ça peut être par exemple la parodie, et toujours ses frères Jacques ont intégré à leur répertoire en 1946 une chanson qui avait été déposée en 1927, et à l'époque c'était une chanson très sérieuse, très premier degré, et pas ce qu'ils en ont fait.
C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes, qu'elle reçoit sans cesse de nouveaux hôtes et qu'elle devint la femme à tout le monde. Et dans la nuit pieusement, si elle fait du supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. L'entrecôte.
Autre parodie, une auto-parodie que Jacques Brel a faite de lui-même. Il a continué une chanson de 1964 en 1967. Vous allez reconnaître. Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germaine, j'ai eu trop de mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons.
C'est celui qu'on veut. Merci, c'était Jocelyn Saviard qui nous a donc illustré cette thématique. On se retrouve tout de suite après, monsieur Weber, quand vous voulez. Voilà.
C'est deux L.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi.
Il va falloir changer de générique, hein, parce que vraiment, il est sympa, mais... Alors là, on est dans la cinquième et dernière partie de l'émission Entre Loire et Loin, au hangar, derrière, il y a Manu Meneau qui se dit « Bon sang, ils ont fini, quand ?» Parce qu'il faut que les gens y rentrent pour le spectacle. La compagnie Zygomatique, ça s'appelle Manger, ça va commencer dans quelques minutes, hein, du coup. Hein. Et puis ça, ce sont mes derniers invités, des invités de choix. qui ont été... je vous ai prévenu il y a combien de temps, Gérard ?
Il y a 36 heures, 48 heures.
Oui, c'est ça, bah, les bonnes idées. Les meilleures idées, c'est celles qui arrivent au dernier moment, la plupart du temps. Alors, la meilleure idée, numéro un, c'était d'inviter Gérard Hay, parce que Gérard Hay, je sais qu'il avait fait cette magnifique sculpture en sucre. Et puis après, je me disais, j'ai besoin, bon sang, d'un cuistot, mais un cuistot qui soit un peu rangé des bécanes, parce que bah, ils sont tous au fourneau à l'heure actuelle, avec cette 34e édition de la gastronomie ?
Le mois de la gastronomie
à Montargis. Et il y en avait un qui était là. Il s'appelle Jean-Jacques Liot. Il est retraité ?
Eh bien oui, maintenant depuis 8 ans.
Depuis 8 ans ? Et c'était les Dominicaines à l'époque.
Tout à fait. Ouais. Mais la retraite de Dominicaine est en 2002.
En 2002.
En 2002, j'ai mon fils qui a repris avec ma belle-fille. Et aujourd'hui, c'est ma fille qui a repris avec mon gendre depuis 6 ans.
Et ça s'appelle
les Pitchouns maintenant.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et moi, toujours. Donc, il y a 36 ans que ça a été créé, puisque je l'ai créé avec mon épouse, il y a 36 ans.
Voilà. Alors, à l'époque, j'ai connu la cuisine de votre belle-fille. Moi, je n'ai pas connu la vôtre, Jean-Jacques.
Vous étiez trop jeune.
Oui, je suis une gamine. C'est ça, le truc. C'est ça. Alors, d'abord, ces deux-là, en plus, comme par hasard, ils sont copains. Ils sont copains. Ils se sont rencontrés en 1990. Et c'était la 5e édition du mois de la gastronomie à Montargis. Vous vous souvenez, Jean-Jacques ?
Non, pas pas du mois de la gastronomie. C'était les jours...
Les jours de la gastronomie, oui. Du concours de gastronomie.
Ah, c'était pas pareil.
Non, c'était dans le cadre de la foire de Montargis et c'était les concours gastronomiques.
C'est un ami commun qui nous a rassemblés.
Pascal Rio, qui était un pâtissier également, et qui était ami avec Gérard. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Il l'a présenté puisque j'organisais moi les concours. Et c'est là que Gérard est venu pour la première fois.
Viens voir, tu verras, c'est bien, tu le verras. On va le rencontrer, et puis c'est comme ça quand, depuis. Ben, ça...
Alors, ça constituait... C'était quoi le concours dont vous parlez à l'époque ?
Ben, c'était des pièces en sucre. Il y avait des pièces sous verre. Et il y avait aussi des pièces qui étaient à faire sur place. Il y avait des galettes, je crois. Il y avait...
Je vais préciser aux gens qui nous regardent que Gérard Hay, il est meilleur ouvrier de France depuis 1976, ce qui ne le rajeunit pas. Et en l'occurrence, il est super meilleur ouvrier de France. C'est un professionnel donc du sucre, de la sculpture en sucre.
Oui, c'est plus près du modelage. Et puis ça c'est mon passe-temps favori.
Voilà.
Cette pièce-là, je l'ai faite pendant la première...
Premier confinement.
Premier confinement, ouais.
Le confinement du confiseur.
Oui.
Voilà. Et donc, Gérard, il a présenté ses pièces partout dans le monde. Et vous avez donné des stages, vous avez formé des ouvriers confiseurs partout dans le monde à cet art qu'on voit nulle part.
Oui, je donnais des cours, et puis parmi mes élèves, j'en ai 5 qui sont devenus meilleurs ouvriers de France. Alors déjà, quand on sort 5 meilleurs ouvriers de France, c'est pas facile.
Non, je crois qu'on peut le féliciter, parce que c'est beaucoup de temps passé pour arriver à emmener des concurrents pour être meilleur ouvrier de France. Donc c'est un temps qu'il a passé énorme pour pouvoir faire ça.
Et Jean-Jacques, c'est quoi vous, votre spécialité ?
Moi, ma spécialité, je suis autodidacte.
Oui,
c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'apprentissage. J'ai commencé à Montargis, à l'hôtel de la Poste, l'ancien hôtel de la Poste, où là, je voulais rentrer comme cuisinier. J'avais toujours voulu être cuisinier. Mes parents ne m'avaient jamais emmené au restaurant. Et donc, je suis rentré. On m'a dit, il n'y a pas de place. Il y a une place, une année d'apprenti serveur. Et si tu veux, après, tu passeras en cuisine. Donc, j'ai passé 3 ans où je faisais le service le midi. L'après-midi, j'étais avec le pâtissier et les cuisiniers à préparer. Mes jours de congé, je restais là et j'ai travaillé que comme ça. Et ensuite, je suis passé dans un autre établissement où là, j'ai dirigé à 27 ans un gros établissement. Et je me suis mis en cuisine. Et j'étais donc autodidacte dans la cuisine.
C'était quoi votre spécialité ? Vous étiez meilleur dans quelque chose ? Dans le salé, dans le sucré, dans quoi ?
Plus dans les sauces.
J'étais spécialiste. Vous êtes un maître saucier, comme on dit ?
Tout à fait, oui. Dans les sauces, j'ai toujours été un petit peu spécialiste et reconnu.
Il en rigole. Il en rigole.
Oui,
il
tout à fait. Parce que, non, parce que pour moi, la cuisine, c'est un plaisir. Donc, ça vient comme ça. Ça vient. Donc, expliquer les choses, c'est difficile. Mais par contre, les réaliser, c'est magnifique.
Alors, donnez-moi comme ça, là, de but en blanc, l'un des plats qui vous a le plus marqué ou que vous avez peut-être toujours plaisir à faire dans le cadre privé, maintenant que vous êtes en retraite.
Alors, dans le cadre privé, je fais très attention parce que bon, j'ai quand même pris, mais...
Oui, j'ai remarqué ça, d'ailleurs, oui. Jean-Jacques, je voulais
pourtant,
vous le dire
je fais
quand
attention.
Même. Faites comme moi, rentrez le ventre.
Non, je vous laisse aller, ça va.
Alors, recette qui
dans
vous
dans
plaît.
Les recettes... C'est difficile parce que j'étais quelqu'un où je créais tout le temps. Donc, j'en mettais toujours en cause. Donc, dire une recette, c'est pas toujours évident.
D'accord. Alors, je me retourne encore vers Gérard. Gérard, vous avez eu une pâtisserie-confiserie sur les Champs-Élysées.
Rue de l'Étoile. Oui. Ça fait 50 ans que je suis pâtissier. J'ai été 35 ans installé rue de l'Étoile.
Ouais. Alors, Patrice, il est depuis tout à l'heure en train de montrer les détails de votre sculpture. Si on s'approche un petit peu, Gérard, dites-moi, là, les petits fils, ça s'appelle comment? Et dessus, les petits grains?
C'est comme la barbe à papa.
C'est comme la barbe à papa.
Ouais. D'accord. Et puis, les petits grains, c'est du sucre. Du sucre que j'ai coloré, puis je trempe dedans.
De toute façon, tout est en sucre, comme ça, vous n'avez pas à vous casser le pompon. Il y a des choses là, il y a différentes textures, il y a des textures granuleuses, oui. Il y a des textures toutes lisses et toutes brillantes.
Oui, celles qui sont granuleuses, c'est parce que j'ai rajouté du sucre dedans. D'accord. Du sucre cristal, du sucre pas cuit. Alors ça fait cette apparence de granulé.
Parfois, vous peignez, vous donnez des coups de pinceau, et d'autres fois, vous travaillez à l'aérographe un peu ?
Oui, je fais beaucoup aussi à l'aérographe.
D'accord. Ça, c'est du sucre, monsieur Afzard, ne vous trompez pas. Moi, j'ai cru que c'était un cajot, je me suis dit, oh, il n'avait plus le temps, le père Gérard, il a mis ça dans un cajot. Mais non.
C'est une autre forme de sucre. Ça, c'est du sucre cuit, et ça, c'est pas cuit. Ça, on fait une pâte, on l'étale au rouleau, on laisse sécher, puis après on assemble.
D'accord. Et puis ça, là, les rubans, ils sont trop beaux.
Ah oui, ça, c'est du sucre cuit.
D'accord. Et là-bas, juste en bas, là, Patrice, regarde, le petit pain, là, avec des petites miettes de pain, eh bien, c'est pas du pain.
Non, c'est du sucre. C'est une autre façon de faire le sucre.
Non, c'est pas du pain.
C'est une autre façon de faire le sucre. Et puis là... Oui, dans le sucre, on met du sucre, comment dirais-je, de la glace royale. Il mousse.
Eh bien, voilà. Merci Gérard, merci Jean-Jacques de nous avoir parlé de ce plaisir de manger, de créer de belles choses. Merci à tous. Et puis la prochaine fois, c'est le 19 novembre. Et ça sera Quartet avec Aurélie Plot. Merci à tous les participants. À bientôt.
Merci à vous.
Voilà, émission spéciale qui a été, je vous le rappelle, enregistrée hier soir au hangar à Chalette à l'occasion du spectacle de la compagnie Zygomatique qui s'appelait Manger. Donc, comme vous l'avez pu le constater, pendant cette heure et demie d'émission, on a parlé un petit peu de nourriture. Voilà. On va remercier toute l'équipe, tous nos invités déjà. On va remercier Manu au hangar de nous avoir reçus, tout le public qui était nombreux, présents. Et puis toute l'équipe. Donc Sandrine, Patrice, toute l'équipe qui était au bar, Anita, Émilie, Alphonse. Et puis on se donne rendez-vous sur les réseaux. Je vous rappelle que tout ce que vous entendez à la radio et bien plus encore, c'est sur la page Facebook de l'émission Entre Loire et Loin. C'est commenter, liker, partager. Tu voulais dire un petit mot, Sandrine ?
Oui, je voulais dire un petit mot. Je voulais vous dire, les gens, vous êtes nombreux à nous encourager quand vous regardez nos petites vidéos sur le net. Mais vous savez, rien ne vaut le vrai. On pourrait se toucher comme ça, on pourrait toucher nos viandes, on pourrait faire rentrer le son dans nos oreilles et nous regarder avec nos vrais yeux si vous veniez le 19 novembre pour l'enregistrement de cette émission. Merci à tous, bye bye.
Voilà, oui, que comme elle vient de le voir, prochain enregistrement public de l'émission, ça sera le 19 novembre, toujours au hangar à l'occasion du spectacle Quartet de la compagnie Jeu est un autre. Et puis ben, la radio sur les réseaux, on se retrouve en vidéo à longueur de temps, et à la radio c'est samedi prochain à 10h sur C2L. On parlera des spectacles de l'AME, on parlera avec on rencontrera le Conservatoire de musique de Montargis, on parlera de plein de choses, de taekwondo aussi parce qu'il y a l'Open International de Chalette, on parlera de plein de choses, on parlera de loup aussi. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine à 10h à la radio et sur la page Facebook de l'émission. Merci à tous et bonne semaine à l'écoute de C2L.
On se sulfate puis on se pèse.